Philippe Solers.
Alors, de quoi il parle, Aragon? Par quoi il se signale? Eh bien, par en effet une mise en question extrêmement brillante et informée de la misère sexuelle. Ce n'est pas du tout chez Breton, ce n'est pas du tout chez Paul Éluard plus tard, ce n'est pas du tout chez Soupeau, que l'on peut trouver des renseignements aussi précis sur la misère sexuelle de l'époque. Ça, c'est l'histoire du fameux Conte d'Irène, qui est extrait, comme vous savez, de la Défense de l'infini, qui est publié en 1928, sans nom d'auteur, sans nom d'éditeur, et Aragon, jusqu'à la fin de sa vie, ne reconnaîtra jamais avoir été l'auteur de cet extrait de la Défense de l'infini, qui s'appelle Le Conte d'Irène. Eh bien, Le Conte d'Irène, c'est un petit chef-d'œuvre admirable, qui n'est pas du tout un livre pornographique, comme on l'a si souvent dit, à tort. Il faut voir ce que c'est que le diagnostic d'Aragon sur une certaine forme de matriarcat et de transmission féminine, dans la sexualité féminine autoritaire française, par rapport à, par exemple, à ce vieillard paralysé qui observe tout ça de loin et qui est comme un homme réduit à sa plus simple expression, empaillé, n'est-ce pas, comme le sont souvent d'ailleurs les mâles français face à leur bourgeoise ou à leur patronne. Il se trouve que là, l'accent est mis sur la puissance du sexe féminin, notamment en France. Ça nous apprend rien, puisque nous sommes un peu au courant quand même que les Français se sont dévoués, et les Françaises combien, dans ce domaine, et c'est pas par hasard si ce Conte d'Irène est contemporain d'une certaine façon imaginaire de ce tableau de Courbet qui a mis si longtemps à venir jusqu'au musée d'Orsay, etc. Donc il y a en effet une description, parmi les plus inspirées qui ait jamais eu lieu, précise, du sexe féminin et de ses pouvoirs, et des personnages qui en sortent pour donner toute leur force de conviction au récit. Donc, toute la Défense de l'infini, c'est ça, les passages sur les bars de Paris, notamment un qui s'appelle le Dzelys, la façon de décrire l'entrée dans le bar, la façon dont tout ça s'organise, c'est avec la force de la subversion qui est que ce dragueur qu'est Aragon à ce moment-là porte chaque moment présent dans la ville un point d'incandescence qu'on a rarement lu, qu'on peut comparer à un rétif, mais c'est beaucoup mieux, enfin beaucoup plus dégagé encore. Par exemple, le fait d'être assis à la Lorraine, la brasserie, et d'échanger simplement des regards avec une femme qui se trouve là, et de jouir simplement par le regard, c'est quelque chose de tout à fait saisissant, qui prouve un corps extrêmement plastique, très préoccupé de sa modulation, qui peut donc basculer dans l'imaginaire féminin et s'en servir, et qui peut revenir à lui en écrivant. C'est donc un corps. C'est le corps d'Aragon. Ce corps-là, donc, atteint, dans les années 26, 27, 28, un point de liberté considérable, qui laisse très loin derrière ses camarades de l'époque, qui ont d'autres mérites. Plus de pensée, peut-être, plus d'intérêt, plus de préoccupations philosophiques. Mais enfin, pour ce qui est de se moduler soi-même à son gré, selon la jouissance qu'on éprouve à chaque instant dans la rue par rapport aux femmes, parce que c'est explicite, hein, j'ai eu besoin de toutes les femmes, mais voilà, j'ai besoin. C'est sans équivalent. Il y a donc là un ressurgissement entre 1920 et 1929 de la très grande subversion française de liberté à travers ce corps.
Tout est possible.
Voilà. Pourquoi est-ce que tout à coup, plus rien ne l'est? C'est ça qui est intéressant. Tout et plus rien.